www.radioclassique.fr. Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, je vous rappelle que c'est Ségolène Royal qui sera l'invité politique de la matinale. Va-t-elle annoncer officiellement sa candidature pour la présidentielle? Nous le verrons, mais en tout cas, elle pilonne le gouvernement de déclarations de plus en plus violentes, réclamant donc la suspension de la réforme des retraites. Nous verrons ça tout à l'heure en direct. Commençons par partir aux États-Unis, car à 7000 km du forum de Davos, où se trouvait hier Donald Trump, s'est ouvert à Washington, donc le procès, ça y est, en destitution du président américain, avec en hors-d'œuvre, mon cher Emmanuel Faux, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Un débat de procédure plutôt tendu.
Absolument, et dès les premières minutes, on a vu les sénateurs démocrates et les sénateurs républicains s'affronter sur le déroulement de ce procès et sur l'impartialité des débats à venir. Et dans le cadre très solennel du Capitole, il y a déjà un premier mot-clé que les deux camps se sont renvoyés à la figure, c'est le mot « truqué ». Les républicains reprochant aux démocrates d'avoir mené une enquête truquée, tandis que les démocrates accusent d'ores et déjà les républicains, majoritaires au Sénat, de vouloir un procès truqué visant à acquitter le président Trump le plus rapidement possible. Et c'est vrai que le calendrier proposé par le leader du Sénat, le républicain Mitch McConnell, qui est un peu l'homme fort maintenant des débats, est on ne peut plus serrer, puisqu'il prévoit que les arguments de l'accusation et ceux de la défense doivent être exposés en 6 jours d'audience maximum. Ensuite, les sénateurs auront 16 heures pour poser leurs questions aux deux parties. Et après, tout va dépendre du nombre de témoins qui seront entendus et quels témoins. Par exemple, si des anciens conseillers de la présidence comme John Bolton sont appelés, alors évidemment, ils pourraient charger un peu plus la barre de Donald Trump. Si la phase des témoignages est réduite au minimum, alors le procès pourrait être bouclé en 2 semaines, ce qui offrirait à Donald Trump l'occasion de triompher lors du discours sur l'état de l'Union qui doit prononcer le 4 février.
Alors, question, mon cher Emmanuel, est-ce que l'Amérique se passionne pour ce procès qui commence? D'après, évidemment, ce qu'on lit dans les journaux depuis maintenant plusieurs semaines, Donald Trump n'aurait, j'emploie le conditionnel, aucune chance d'être condamné.
Oui, ça c'est sûr. Bah, évidemment, les Américains, ça les intéresse, parce que le choix des médias, d'ailleurs, ils n'ont pas tellement le choix, parce que les médias vont leur offrir des heures d'édition spéciale.
On va en parler dans un instant.
De direct du Sénat, voilà. Mais dire que ça les passionne, là, je dirais que c'est quand même exagéré. D'abord parce que ça fait des mois qu'on leur parle de cette affaire et de la procédure en cours au Congrès. Ensuite, parce que vous venez de le dire, le procès est joué d'avance, hein, je le rappelle. Pour que Donald Trump soit condamné, il faudrait que 20 sénateurs républicains au moins franchissent le Rubicon et vote à charge avec les démocrates, hypothèse hautement improbable. Et puis il y a une troisième raison qui fait que les citoyens risquent de détourner la tête des débats du Sénat, c'est que pour les Américains, le mois de janvier marque le coup d'envoi des primaires. Les candidats viennent déjà à leur rencontre. Le premier scrutin aura lieu dans moins de 2 semaines, le 3 février, dans l'Iowa. Ensuite, ce sera au tour du New Hampshire. Et ce qui intéresse les électeurs, c'est d'interroger les candidats sur leurs problèmes du quotidien. L'emploi, l'école, éventuellement le réchauffement climatique. Donc pour beaucoup, on est déjà très loin des débats un peu hors sol du Sénat.
Voilà, vous qui avez fait une carrière internationale, vous imaginez bien donc candidat, par exemple, quelque part sur la côte est des États-Unis. Ça vous irait très bien dans le Massachusetts, par exemple. À 7h42, dans la droite file de ce que vient de vous raconter Emmanuel, nous partons justement au cinéma avec vous, Bruno, car sort le film qui s'appelle Scandale, qui raconte l'histoire du patron de Fox News, donc cette chaîne qui a un peu amené Donald Trump au pouvoir. C'est un film dont vous allez de dire le contenu, mais alors avec un casting plaqué or.
6 étoiles. Oui, alors justement, on parlait de Donald Trump, on voit des archives, parce que ça se passe en 2007, pendant sa campagne de son élection.
Roger Ailes.
Et on entre dans les coulisses de Fox News Channel, la chaîne qui appartient à Rupert Murdoch, et on voit, d'ailleurs, c'est Nicole Kidman qui nous fait visiter, Charlize Theron qui nous fait visiter les coulisses, et c'est presque un docu-fiction,
documentaire. Kidman, Theron,
Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. En fait, ce sont trois représentantes de réelles, les deux premières en tout cas, une journaliste vedette qui a été licenciée, Nicole Kidman, et comme elle est licenciée parce qu'elle est soi-disant périmée, c'est ce que trouve Roger Ailes, elle va porter plainte contre son patron.
Ce cher Roger Ailes.
Elle va porter plainte contre son patron et ça va être la destitution, mais en quelques semaines. Alors, on entre dans ses coulisses, c'est un film qui est très bien fait, important, parce que c'est 1 an avant l'affaire Weinstein, les 3 actrices qui se sont fait une tête de leur modèle, avec même des prothèses qui sont incroyables, et c'est vrai que c'est très fort, et que c'est un film qui est tout à fait convaincant, un poil scolaire, et d'ailleurs, il y a Géroche nous montre par exemple l'actrice qui parle au public, et il y a un côté un peu scolaire, un peu didactique, et vous voyez, on va visiter ça, etc. Donc c'est très bien fait, c'est un très bon film, avec, dans le rôle, et j'ai un petit quiz rapide pour notre ami, dans le rôle de Rupert Murdoch, Malcolm McDowell, qui vous fait penser à quoi, tous?
Orange Mécanique.
Orange Mécanique, c'était il y a 48 ans, et surtout son premier film où il était vedette, Palme d'or à Cannes.
C'est Yves de Lindsay Anderson.
Yves de Lindsay Anderson en 60.
J'ai dit dans les coulisses tout à l'heure.
Ça nous rajeunit pas. Voilà. Ça nous rajeunit pas. Voilà. Et voilà. Je voulais juste dire, puisqu'on parle de harcèlement, hier.
Globalement, c'est un bon film.
C'est un bon film. Bon, voilà. C'est un bon film qu'il faut absolument voir. C'est absolument. Hier, j'étais à une soirée un peu inaugurale pour un projet soutenu par une grande actrice, Sandrine Bonner, qui s'appellera La Maison des âmes, La Maison des femmes, La Maison des âmes, qui recevra les femmes et les enfants victimes d'harcèlement, de violence. Il y aura une équipe de juridique, administrative, pour les emmener au commissariat, une équipe psychologue pour la reconstruction physique et morale. Donc voilà, c'est un projet, ça s'appelle la Maison des âmes, soutenue par la marraine Sandrine Bonner, et c'est important de le signaler.
Merci mon cher Bruno. D'autres films français donc sortent aujourd'hui, mais de moindre importance, m'avez-vous dit, dans les coulisses.
Adoration, un joli film noir, un conte noir, une histoire d'amour de Fabrice Duvels, et puis une comédie chorale d'Arnaud Villard qui s'appelle Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'après Anna Cavalda, qui est pas mal, en tout cas avec de bons acteurs.
On peut toujours rêver. Il est 7h45, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, voici Dimitri Pavlenko. Il faut expliquer, mon cher Dimitri, ce qui se passe dans cette bataille entre l'Europe et les États-Unis à propos des taxes GAFA. La France suspend justement son intention de lever cet acte, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le titre qu'on trouve dans les journaux ce matin, ça ne veut pas du tout dire qu'elle arrête le combat, bien au contraire.
Oui, voilà, c'est ça, parce que la France donc suspend l'appel de ces deux acomptes que les GAFA étaient censés, enfin les GAFA, pas que, hein, mais les entreprises du numérique qui font un gros chiffre d'affaires devaient verser donc en avril et en novembre. Et alors on lit, voilà, ça et là, la France se couche face aux États-Unis, la France baisse la tête. Non, en fait, la France fait un calcul très pragmatique. Je rappelle que la taxe GAFA sur un plan vraiment financier était censé rapporter 500 millions d'euros à l'État, à comparer aux 2 milliards 400 millions qu'auraient coûté aux entreprises françaises la surtaxe douanière de 100% que menaçait d'imposer l'administration Trump. En plus, cette taxe douanière américaine, on aurait pu l'appeler taxe luxe et Roquefort, puisque les cibles, c'était très clairement nos GAFA à nous, c'est-à-dire Hermès, Kering, LVMH, plus le Roquefort, qui est le fromage symbole pour les Américains lorsqu'on parle de la France. Sachant que le luxe n'a pas besoin aussi de beaucoup d'autres problèmes supplémentaires en ce moment. Il est déjà perturbé par ce qui se passe en Chine avec ce virus. Tout de suite, on sent qu'il y a vraiment un affolement à l'égard des ventes en Chine. Pas trop le choix aussi, il faut le dire, pour la France, que de suspendre la levée de cette taxe. Pourquoi ? Parce que la France est très seule quand même dans ce combat. Et elle est aussi, il faut le dire, très courageuse, parce que la taxe GAFA, c'est quand même, là on est en train de jeter les bases de la fiscalité de demain, face à des entreprises colossales, les plus grosses capitalisations quand même de l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça, et qui font remonter à elles les bénéfices de la production de valeur de pratiquement toute l'économie. Donc je tiens à dire ça ce matin, la France est très courageuse, elle a été lâchée par l'Allemagne qui a très peur pour la taxation de ses automobiles, on sent quand même que ça bouge à Bruxelles, Thierry Breton a eu des déclarations récentes en disant on soutiendra la France quand même, et on ripostera si les États-Unis tapent sur Paris. La présence de Thierry Breton, on sent quand même, fait bouger les lignes du côté de Bruxelles ces derniers temps.
Merci mille fois. Il est 7h39, vous verrez à la une du New York Times, c'est une photo assez choc, on voit que c'est quand même rarissime. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, à la une du New York Times, et c'est avec ce titre magnifique, en tout cas magnifique pour le New York Times, Mister No. Il est 7h47, voici le journal imprévisible.